Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Depuis longtemps, son nom divise les Acadiens, puisque synonyme de souvenirs douloureux. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, Robert Monckton.
Nous savons que la dispersion a eu lieu, nous savons que nos ancêtres ont été dispersés, ont été jetés sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, ou même en France, ou en Angleterre, ou au Saint-Pierre-Miquelon. Donc c'est ce fait-là qui nous frappe, nous autres. C'est la mémoire de ce fait-là que nous gardons en esprit. Maintenant, de là, attacher le blâme à une personne en particulier, comme vous dites, pour justifier tel ou tel acte, c'est extrêmement difficile.
Les propos du père Léonard Légère évoquant la déportation des Acadiens, c'est à notre radio le 12 août 1955. Depuis la création de l'université qui porte son nom, l'héritage de Robert Monckton suscite la controverse. Si pour certains, le lieutenant général de l'armée britannique a joué un rôle actif dans la déportation des Acadiens, pour d'autres, il n'a fait qu'exécuter les ordres. Mais un fait demeure, ce haut gradé de l'armée a supervisé l'expulsion des francophones de leur territoire. Il a aussi pris part à la prise de Québec, aux côtés du célèbre général Wolfe.
À l'aurore du 17e siècle, c'est Port-Royal, le premier de tous les jalons français en Amérique, et qui devient bientôt cette colonie florissante et ce noyau de peuple qui, déjà à cette époque, se considérait bien distinct et différent des autres Français du pays, tout en étant pareil, bien entendu. Et puis, un siècle encore, et d'autres sont venus, qui par la force des armes se sont installés en maîtres. Et sur le sol français, d'autres accents et d'autres pas ont résonné. Et côte à côte, Britanniques et Français d'Acadie ont cohabité quelque temps, inconfortablement, et puis tout à coup est arrivé ce jour d'il y a 200 ans, où les Anglais décidèrent d'y rester tout seuls. Et ça a beau faire 200 ans, c'est un souvenir vivant qui se refuse non seulement à s'estomper, mais aussi à se transformer. On peut même dire, je crois, que cette excellente mémoire est peut-être un des problèmes acadiens. Eh bien, on voit tout de suite que pour eux, ce passé n'est pas de la poussière, mais de la cendre bien chaude.
Vous l'avez peut-être reconnu, c'était la voix de René Lévesque, alors journaliste, c'était le 12 août 1955 à notre radio. Ah, pour nous parler de Robert Monckton, mon invité Maurice Basque, il est historien, conseiller scientifique à l'Institut d'études acadiennes de l'Université de Moncton. Bonjour, merci d'être là.
Oui, ça me fait vraiment plaisir.
Alors, c'est un vieux débat qui est de retour dans l'actualité depuis quelque temps. Pourquoi? Pourquoi le nom de Robert Monckton suscite à nouveau la controverse?
Bien, vous savez, depuis la création de l'Université de Moncton en 1963, il y a périodiquement, à peu près aux 10 ans, un vieux débat qui revient. Doit-on changer le nom de l'université? L'université porte le nom de la ville où est le campus principal de notre université. On a 3 campus, le principal à Moncton, on a un autre à Chipagan dans la péninsule acadienne et à Edmundston dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Donc, l'université porte le nom de la ville et la ville porte le nom de Robert Monckton. Donc, pour plusieurs, l'équation, c'est que l'université porte le nom de Robert Monckton, alors que d'autres vont dire non, non. Quand on a choisi le nom en 1963, c'était bien la ville qu'on avait désignée et non l'officier britannique, l'un des grands responsables du grand dérangement des Acadiens à partir de 1755.
Vous dites l'un des grands responsables. On va y revenir sur son rôle exactement. Oui. Mais à l'origine, c'est qui, Robert Monckton?
Alors, Robert Monckton, il fait partie de ces officiers militaires britanniques du 18e qui vont passer une bonne partie de leur carrière à combattre les Français, tant sur le continent européen qu'en Acadie, que dans la vallée du Saint-Laurent ou encore dans les Caraïbes. Il est né en Angleterre, donc c'est un vrai Anglais britannique, en comparaison, par exemple, avec d'autres qui vont participer au grand dérangement, mais qui sont plutôt nés dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord. Comme son père, comme d'autres membres de sa famille, il va entrer très jeune dans l'armée britannique. Il avait, je crois, 15 ans lorsqu'il entre dans l'armée. Il va commencer sa carrière en combattant les Français en Europe avant d'être envoyé en Amérique, en Nouvelle-Écosse, qui est déjà à ce moment-là une colonie britannique. Et en 1755, c'est à lui qu'on va confier une expédition militaire qui va partir du Massachusetts pour s'emparer du fort français de Beauséjour, qui est stratégiquement situé à la frontière de l'Empire colonial français qu'est la Nouvelle-France et de la Nouvelle-Écosse, dans l'isthme de Chinectou, qui est aujourd'hui la frontière entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, donc une très petite rivière, la Messaguash, qui était la frontière à l'époque, qui l'est encore aujourd'hui entre ces deux provinces.
Oui. Il va réussir l'exploit donc de prendre le fort Beauséjour. Alors, pourquoi c'est une victoire importante, ça, pour l'armée britannique et pour lui?
Ben, vous savez, en 1755, lorsqu'on replace la capture du fort Beauséjour dans un contexte nord-américain, Robert Monckton est le seul officier militaire britannique de cette année qui va avoir une victoire à son compte. Les autres militaires britanniques vont connaître de sérieuses défaites aux mains des troupes canadiennes et françaises en Amérique du Nord. Alors, il est vu et reconnu assez rapidement comme étant un officier très efficace, en mesure d'exécuter des ordres. Il est vu également comme étant quelqu'un qui pourra jouer un rôle dans la capture d'une bonne partie de la population acadienne pour les expulser, pour les enlever de leurs terres par la force. Et, faut le rappeler, le grand dérangement, hein, la déportation des Acadiens, ça ne commence pas à grand pré, comme le veut le célèbre poème évangéline de Longfellow. Ça commence au fort Beauséjour. C'est au fort Beauséjour, suite à sa capture par l'expédition commandée par Robert Monckton, que les premiers Acadiens vont être placés de force sur des navires britanniques et envoyés comme exilés, les premiers, dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord.
Oui. Et pourquoi? Pourquoi on fait ça?
Bon, c'est vraiment, je dirais, la solution finale décidée par les Britanniques. Ça fait longtemps que les Britanniques voulaient faire des Acadiens sur le territoire de la Nouvelle-Écosse de bons sujets britanniques, qu'ils gardent la langue française, au pire aller qu'ils demeurent catholiques, c'est pas tant le problème. Le problème, c'est que les Acadiens ont mis de l'avant une politique de neutralité. Ils ne voulaient pas porter les armes contre les Français, ni contre les Autochtones, ni contre les Britanniques. Alors, pour les Britanniques, comme pour les Français d'ailleurs, ça ne faisait pas l'affaire des maîtres des deux empires coloniaux, parce que lorsqu'on est le sujet d'un roi, il faut défendre son roi. Hein? À l'époque, on est sujet, pas citoyen. Alors, ce refus, c'est ce que j'appelle une espèce de participation négociée à un empire colonial. Les Britanniques l'ont toléré jusqu'à ce qu'ils deviennent majoritaires presque sur le territoire avec la création d'Halifax en 1749 et l'envoi de contingents militaires britanniques en Nouvelle-Écosse. En 1755, lorsque Monckton va capturer le fort Beauséjour, il y a des miliciens acadiens qui sont dans le fort. Ils ont été forcés par les Français de prendre les armes. Monckton va accepter de les pardonner en disant « Vous n'avez pas eu le choix, finalement, on vous a forcé de vous battre contre nous. » Mais lorsque le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Charles Lawrence, va apprendre la nouvelle du pardon, en sa capacité de lieutenant-gouverneur, il va annuler et au contraire, on va procéder avec un ordre au 28 juillet 1755, la saisie des terres au nom du roi de la Grande-Bretagne et l'expulsion par la force de la population. Et c'est à Monckton qu'on va confier la déportation, la capture des Acadiens dans ce qui est aujourd'hui le sud-est du Nouveau-Brunswick. Et c'est ce qu'il va faire. Ça sera le commandant et il va le faire comme un militaire de façon très efficace. Mais il aura également sous ses ordres pas seulement des miliciens de la Nouvelle-Angleterre et des soldats britanniques, il aura également des mercenaires, des rangers, qui, eux, font surtout à leur tête, et dans les années du Grand Dérangement, ce sont surtout les rangers qui vont commettre les actes les plus violents, les plus cruels. Et l'histoire va associer souvent les actes des Rangers à l'armée régulière britannique et à ses commandants, dont Robert Monckton.
Oui. Et quand vous dites des actes violents de la part des Rangers, ce sont des expéditions punitives, quoi, à l'endroit des Acadiens?
C'est-à-dire qu'on veut capturer les Acadiens. Ceux qui ne se rendent pas dans les forts britanniques pourraient être déportés par la suite. On va brûler. Hein? C'est la stratégie de la terre brûlée. Brûler les villages, brûler les récoltes, les granges, les maisons, tuer le bétail. On veut affamer les Acadiens pour les obliger à se rendre au fort, au lieu, par exemple, de passer un hiver sans nourriture et presque mourir de faim. Oui. Et Monckton va utiliser cette tactique, finalement. Donc, dans la région de la ville qui porte son nom aujourd'hui, au Nouveau-Brunswick, on a des récits de Rangers qui vont scalper les Acadiens. Les Rangers, ils n'hésitent pas au scalp, parce que le scalp leur permet de toucher une somme et de dire, bon, ben voici, on a tant d'Acadiens et d'Acadiennes également. Quand Monckton va aussi recevoir l'ordre d'expulser en 1758 tous les Acadiens et les Acadiennes des hameaux acadiens et des villages du fleuve Saint-Jean, où est Fredericton, aujourd'hui ça remonte jusqu'à la frontière québécoise à peu près, il y a encore des Rangers qui sont là, et dans la région de Fredericton, connue à l'époque comme Sainte-Anne-des-Pays-Bas, qui est un village acadien, les Acadiens se sont cachés en forêt, les femmes et les enfants sont restés, et sous les grands ordres de Monckton, bien, il y a une compagnie de Rangers qui vont capturer des femmes et des filles, les violenter, les tuer finalement, les torturer, les tuer, sous les yeux des Acadiens qui étaient en forêt. On connaît les détails parce que l'un des Acadiens qui était caché, ce sont son épouse et ses filles qui ont été tuées. Et une fois réfugié en France, on a son document, son mémoire, son témoignage, où il décrit en détail l'horreur qu'il a vécue en voyant sa famille exécutée, torturée finalement, en demeurant caché avec ses voisins. C'est l'un des moments les plus durs, les plus cruels, entre autres, du Grand Dérangement.
Oui, tout à fait. Alors, on va écouter le récit qu'on en faisait à la télévision en 1972, l'émission La feuille d'érable, les Acadiens, fresque historique d'André-Paul Antoine, adaptée pour la télé à l'époque par Réginald de Boisvert. C'était à notre antenne le 14 mars, donc 1972.
Nous avons été trop tolérants avec ces gens-là. Certains gouverneurs précédents de Sa Majesté britannique ont voulu s'attirer la reconnaissance des Acadiens et les amener peu à peu à devenir de loyaux sujets. Mais en réalité, il n'y a rien à faire avec cette racaille papiste. Ce sont tous nos ennemis, jeunes et vieux, hommes et femmes, enfants, prêts à donner la main aux Français aussitôt que ceux-ci voudront reconquérir l'Acadie. Je sais que nombre d'entre eux ont rejoint le maquis avec l'infâme Abbé Leloutre et ses Indiens Micmacs. Vous les poursuivrez sans pitié jusque dans la vallée de la rivière Saint-Jean.
Bien, monsieur.
Il ne doit pas rester dans cette région âmes qui vivent, susceptibles d'apporter une aide quelconque aux Français de Louisbourg et de l'île du Cap-Breton. J'exige un nettoyage complet. Et c'est vous, Major Evans, qui en êtes chargé.
Et que dois-je entendre par nettoyage complet?
Si les mots disent bien ce qu'ils veulent dire, il s'agit d'extirper d'un lieu souillé jusqu'à la moindre trace de saleté.
Mais encore, monsieur.
Il faut donc vous mettre les points sur les i.
Oui, monsieur.
Ces gens-là sont nos ennemis, Major. Servez-vous de votre tête et de vos fusils.
Reconstitution pour la télé en 1972. Celui qu'on entend, l'acteur principal, bien sûr, l'interprète, le lieutenant-gouverneur Lawrence, on l'aura compris. Donc, j'en reviens à la question principale. Robert Monckton, il a joué un rôle actif dans la déportation. Ou il ne fait qu'exécuter les ordres.
Tout à fait, oui, tout à fait. Les ordres venaient surtout de Charles Lawrence. Charles Lawrence, probablement de tous les officiers britanniques présents au moment du Grand Dérangement, c'est celui qui a véritablement une haine des Acadiens. Mm-hmm. Il a combattu lui aussi les Français toute sa vie, souvent battu en Europe par des armées françaises, donc il a un goût de vengeance. C'est intéressant que les comédiens dans les années 70 utilisent le mot de nettoyage, qu'aujourd'hui, on utilise l'expression « nettoyage ethnique » avant la lettre pour décrire de temps en temps la déportation des Acadiens, parce que, à quelques exceptions près, tous les Acadiennes et les Acadiens sont visés par l'ordre d'expulsion. Ça va durer plusieurs années, hein. Même quand Montréal capitule, il y a des Acadiens à Montréal. Et l'officier britannique Amherst, qui va prendre possession de Montréal, accepte la capitulation de Montréal, mais en marge, il va mettre « sauf pour les Acadiens ». Sauf pour les Acadiens, qui sont vus pendant des années, malgré leur politique de neutralité, parmi les pires ennemis des Britanniques. L'image des Acadiens du côté des Britanniques, elle est vraiment très, très noire. Rares seront les responsables britanniques qui auront un moment de sympathie. Hein? Ils vont essentiellement dire « la guerre, c'est la guerre », même si ce sont des civils.
Oui. Et d'où la déportation. Il y aura en tout, on estime quoi, autour de 10 000 Acadiens là, qui seront déportés comme ça.
Tout à fait, oui. Beaucoup vont mourir en cours de route. Certains vont prendre les armes pour s'opposer aux Britanniques. Beaucoup vont se réfugier, bien sûr, dans la vallée du Saint-Laurent. Certains participeront à la bataille des Plaines d'Abraham, à la bataille de Sainte-Foy. Mais c'est la minorité, quand même.
Oui. En tout cas, dans le cas de Monckton, on en revient à lui. Bon, évidemment, il a bonne réputation auprès de l'armée britannique, si bien que Wolfe fait appel à lui pour la conquête de Québec. Il sera présent lors de la bataille des Plaines d'Abraham. Quel rôle il va jouer après la conquête de la Nouvelle-France?
Bien, il est reconnu comme un héros. Écoutez, il est à côté de Wolfe quand Wolfe meurt. Wolfe qui devient le grand héros militaire de l'Empire britannique. Il a donné sa vie aux yeux des Britanniques pour construire et sauvegarder l'Empire. Monckton, d'ailleurs, aime bien se faire représenter dans les toiles qui présentent la mort de Wolfe. On va lui donner des promotions à Robert Monckton. Il deviendra le gouverneur de la colonie de New York avant de retourner chez lui, où il va décéder à Londres. Il va reprendre momentanément le siège de la Chambre des communes qu'occupait son père, hein, parce que la famille Monckton, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est une grande famille de fonctionnaires et de parlementaires britanniques, au moins depuis le 17e siècle.
Ah oui. Mais parlons-en de son héritage, justement. Parlons de l'université, hein, ce qui suscite toujours la controverse, on l'a dit au début. D'abord, pourquoi les fondateurs de l'université de Moncton, Louis Robichaud en tête, ont-ils voulu l'associer à l'université? J'aurais pu choisir un autre nom. Pourquoi Moncton, vous dites? Parce que c'est la ville? Parce qu'on a voulu honorer la ville?
Oui, tout à fait. C'est surtout la ville qui est toujours aujourd'hui majoritairement anglophone. À l'époque, elle n'est pas nécessairement toujours, dans les années 60, très ouverte à la minorité acadienne. Il y a deux fondateurs à l'université de Moncton. Hein? Il y a Louis Robichaud, qui est le premier ministre de l'époque, le premier ministre acadien. Et il y a son grand ami, qui sera le premier recteur de l'université, le père Clément Cormier.
Oui.
C'est le recteur, c'est un homme, comme on dit ici, un gars de Moncton. Il a grandi à Moncton, il est né à Moncton. Il défend depuis des décennies l'idée que Moncton est véritablement la capitale de l'Acadie. Et tout le monde n'est pas d'accord avec ça, surtout les Acadiens des autres régions qui voient en Moncton souvent une ville d'assimilation où la cohabitation laisse place des fois souvent à la compromission plus qu'à des compromis. Mais Clément Cormier, c'est un fin renard. Il aura le dernier mot, ça deviendra l'université de Moncton, avec l'appellation comme la ville, parce que Robert Moncton avait un K dans son nom. Et le K va disparaître.
Oui.
Le K Moncton. Hein? Oui. Donc, Moncton, de son vivant, écoutez, le Nouveau-Brunswick, le territoire du Nouveau-Brunswick faisait, dans les années 1760, partie de la Nouvelle-Écosse. On va nommer un township, le township de Moncton, où est située la ville de Moncton aujourd'hui, avec le K. Donc, de son vivant, il y a une unité administrative de la Nouvelle-Écosse qui porte son nom. Par la suite, lorsque la province du Nouveau-Brunswick est créée en 1784, on va reprendre le nom de Moncton, mais cette fois-ci, le greffier de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick fait une erreur, pense-t-on, et il laisse tomber le cas. Le cas disparaît pour réapparaître momentanément. Au début des années 1930, lorsque le conseil municipal de la ville de Moncton décide, sans consultation, que la ville devrait revenir et rajouter le cas, et là, c'est la communauté d'affaires de Moncton qui dit absolument pas, c'est pas vrai qu'on va changer nos entêtes de lettres et nos adresses.
Ah oui,
ça n'a rien à voir avec les Acadiens.
Ah
hein?
Oui,
donc, on ne veut pas de ce cas.
Oui, c'est purement économique.
Tout à fait.
Ben, on va écouter, en tout cas, au sujet de l'université, on va écouter ce qu'en disait justement Louis Robichaud et Clément Cormier, hein, à l'époque. C'est tiré d'un documentaire de l'ONF qui s'appelle « Robichaud », réalisation Herménégilde Chiasson en 1989.
Les Acadiens, pour se faire instruire, bien qu'il fallait qu'ils déménagent de province, à moins qu'ils aillent à une université anglophone au Nouveau-Brunswick. Et puis, ça, c'était pas tout à fait de justice. Puis, ça prenait une université acadienne, une université française au Nouveau-Brunswick.
Je crois que lorsque nous arriverons à vouloir instituer une université supérieure avec faculté professionnelle et une école de gradués, je crois que les esprits volontiers vont se rallier et que nous pourrons compter sur toute la population pour favoriser l'établissement d'un centre universitaire d'importance à la disposition des Acadiens.
Oui, l'établissement universitaire a vu le jour. C'est une université importante, c'est une institution importante pour les Acadiens de Nouveau-Brunswick.
C'est l'institution phare depuis plusieurs décennies. Les diplômés de l'université, pas seulement des Acadiens, mais les Acadiennes et les Acadiens qui sont demeurés, par exemple, au Nouveau-Brunswick, ont contribué beaucoup à transformer ce qu'on a appelé ici aussi la Révolution tranquille acadienne. Maintenant, on a des diplômés ailleurs. Le père Clément Cormier, pour lui, mon collègue historien Jacques-Paul Couturier, qui a beaucoup écrit sur l'histoire de notre université, va dire avec raison, pour Clément Cormier, le nom de Moncton, en quelque part, est associé à la modernité. C'est un prêtre. Il ne propose même pas le nom d'un saint pour l'université ou l'Assomption, par exemple, qui est la patronne des Acadiens. Il propose le nom d'une ville. Clément Cormier, il veut une université moderne, ouverte sur le monde, pas seulement pour les Acadiens.
Concernant le nom, l'Université de Moncton, on va écouter justement les propos récents de quelqu'un qui est très, 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 très connu chez vous, Antonine Mayette, grande écrivaine acadienne. C'était à notre radio il y a quelques semaines à peine, en mars 2023.
Je n'ai rien contre Moncton, mais il reste que le nom Moncton vient du colonel Moncton, qui était l'adjoint de celui qui nous a déportés. Alors, c'est triste un peu d'avoir comme université qui représente un peuple qui a été déporté, il y a quelques siècles, par quelqu'un qui porte ce nom de l'université. C'est presque un non-sens. Il y a un temps où on doit reconnaître que le nom a une double signification. Et si on porte le nom de celui qui nous a maltraités, c'est un peu dommage. Alors, je crois qu'il est temps de penser qu'on pourrait donner un nom qui soit plus proche de l'Acadie elle-même.
On en revient toujours au débat initial. Je vous ai lu quelque part dans un article dire, écoutez, c'est une question compliquée. Hein? Est-ce qu'on peut le résumer ici?
C'est quelque chose de changer de nom. La question, à mon avis, qui est encore plus importante, lequel va-t-on choisir si on décide de changer de nom? Là, l'Acadie, ça appartient pas seulement au Nouveau-Brunswick, par exemple.
Autre débat en vue.
Voilà. Hein?
Voilà. En tout cas, fort intéressant. Mon invité, donc, je le rappelle, Maurice Basque. Il est historien, conseiller scientifique à l'Institut d'études acadiennes de l'Université de Moncton et nous parlait depuis nos studios, justement, là-bas à Moncton. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Coutier là-dessus. Bonne soirée. À demain. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.